Média d'Afrique, Alain Focat.
Ça y est, cette fois-ci, c'est officiel. Depuis la disparition de son père le 8 juin dernier, il était au centre de toutes les réflexions sur l'alternance, sur l'après-Bongo au Gabon. Allait-il utiliser l'armée dont il est le ministre très apprécié des officiers et des soldats pour s'emparer par la force du fauteuil qu'a occupé son papa pendant une quarantaine d'années? Cela s'est vu dans certains pays il y a quelque temps seulement. Allait-il entrer en conflit avec les nombreux prétendants au trône qui se bousculent à Libreville depuis la disparition du vieux Omar Bongo Ondimba? Allait-il obtenir l'investiture du PDG, le Parti démocratique gabonais, créé par son père, où des barons, des cadres, des poids lourds ont aussitôt déclaré leurs ambitions au lendemain de la disparition du président? Cette fois, c'est fait. Ali Bongo a été investi dimanche dernier candidat du Parti démocratique gabonais pour la présidentielle du 30 août prochain. Un choix qui fait officiellement de lui l'unique représentant du principal mouvement politique gabonais, mais qui cache mal la dissension, la division qui prévaut en son sein, puisque plusieurs autres membres influents du PDG ont aussitôt déclaré qu'ils se présenteraient malgré tout sous une autre étiquette dans cette élection qui s'annonce comme la plus ouverte de l'histoire contemporaine de ce pays pétrolier d'Afrique centrale qui fait couler tant d'encre dans la presse. Tant le défunt président avait réussi à s'imposer sur le plan international. Ali Bongo est l'invité du jeudi des médias d'Afrique. La première sortie médiatique de celui qui fait la une de nombreux médias depuis la disparition de son père. Et comme le veut la tradition dans ce rendez-vous du jeudi, qui est l'unique conférence de presse intercontinentale de la radio, il va répondre aux nombreuses questions que se posent les journalistes africains depuis maintenant plus d'un mois. Merci monsieur le ministre Ali Bongo de nous accorder cette exclusivité et bienvenue à Média d'Afrique qui est aujourd'hui chez vous à Libreville.
Merci beaucoup.
Alors nous allons nous tourner vers notre premier journaliste qui est à Abidjan en Côte d'Ivoire, qui s'appelle Cheikh Ivan, Cheikh Ivan de Radio Nostalgie Abidjan. Bonjour Cheikh.
Bonjour Alain, bonjour Ali Ben Bongo. Les observateurs du monde entier de la scène politique gabonaise prédisaient à demi-mot un coup d'État orchestré par vous au lendemain du décès de votre père Omar Bongo Ondimba. Il n'en est rien finalement, ou du moins dans sa conception classique, comme il nous a d'ailleurs été donné d'assister au Togo et en RDC notamment. Et il semblerait que vous ayez été plus subtil dans l'approche, puisque le coup de force s'est opéré au sein même du parti de votre père, le PDG. Qu'est-ce que vous répondez à cette observation?
Je pense tout simplement que ceux qui me connaissent vraiment n'avaient aucun doute et aucune inquiétude quant à la manière dont les choses allaient se passer ici au Gabon. Je suis profondément légaliste et donc pour moi il n'a jamais été question de, comme vous l'avez suggéré, de faire ce qu'on appelle vulgairement un coup d'État.
Ça vous a jamais tenté, vous vous êtes jamais dit, moi je me retrouve en position de force avec moi l'armée, pourquoi pas le faire tout de suite, on a vu ça ailleurs.
On l'a vu ailleurs, mais nous estimons que ça n'a jamais été une bonne méthode. Et le président Bongo nous a légué des institutions fortes et donc il n'était nullement question pour nous de pouvoir même envisager cette solution-là. De plus, je tiens quand même à faire remarquer que mes états de service plaident pour moi puisque quand même, ça fait pas mal d'années, j'ai été associé au processus de démocratisation de notre pays. Donc je ne vois pas pourquoi, après avoir lutté comme tant de compatriotes, à ce que nous puissions avoir une plus grande démocratie, je sois moi le premier à venir lui porter un coup fatal.
Alors Cheikh Ivan parle justement du passage au forceps au sein du PDG, votre parti, le parti dans lequel vous êtes vice-président. Est-ce un passage au forceps? Est-ce que là, les règles démocratiques ont été respectées?
Bah, écoutez, je ne sais pas comment on peut parler de forceps dans la mesure où, là aussi, nous avons quand même enregistré 10 candidatures. Et donc nous avons suivi un processus de sélection qui était une première dans notre pays. Et je peux dire que les choses sont passées le plus démocratiquement possible. Nous avons quand même tous été auditionnés. Et c'est donc à la suite de nos auditions que les dirigeants du parti, notamment le comité de concertation et le comité permanent du bureau politique, ont pris la décision qui est la leur.
Mais comment expliquer donc que des barons influents, des membres influents qui ont même souvent fait route avec vous, puisque vous étiez dans un courant avec un des nouveaux candidats qui s'appelait le courant des renovateurs, comment expliquer qu'aujourd'hui ils contestent ce système, qu'ils se mettent en marge et soient candidats à leur tour?
Il est très difficile à moi de répondre à cette question. La seule chose que je pourrais faire remarquer, c'est que la question qu'on puisse se poser, quelle aurait été leur réaction si c'est eux qui avaient été sélectionnés? Bon, je crois que lorsque on va s'engager pour faire une partie de football, on ne s'attend pas à jouer au rugby. On connaît les règles avant. Donc on n'attend pas la fin du match. le coup de sifflet final pour pouvoir dire que bah, finalement, je n'étais pas d'accord avec les règles du football et moi, j'aurais préféré jouer au rugby ou au handball. Je crois que, bon, au départ, tout le monde connaissait les règles, tout le monde savait comment ça allait se passer. Bon,
les règles ont été respectées jusqu'au bout. Il n'y a pas eu d'arrangement souterrain qui ferait que ce soit vous qui bénéficiez des amitiés de votre papa.
Je pense que c'est faire injure aux dirigeants du parti qui ont quand même sont des gens sérieux et qui ont tout simplement appliqué les statuts de notre parti. Statuts d'ailleurs, je dois dire, pour certains qui ont été acceptés par tous lors du dernier congrès que nous avons tenu en septembre 2008. Bon, et donc à partir de ce moment-là, tout le monde connaissait la règle du jeu, je le répète. Et je pense tout simplement que les choses se sont passées normalement. Le processus a été même plus long dans la mesure où la concertation nous a demandé que des contacts soient pris et que les membres du comité permanent du bureau politique prennent leur temps, ce qu'ils ont fait. Et encore une fois, les choses se sont bien passées. Je pense que le parti en est sorti renforcé et encore plus fort.
Alors, Cheikh Ivan, vous aviez une seconde question. Est-ce qu'on peut l'écouter ?
Si jamais vous êtes candidat à la présidentielle, est-ce qu'on pourrait considérer cela comme un atout ? Ou est-ce que le fait que vous descendiez justement de votre père ne constitue pas un handicap pour votre présidence ?
Ça fait beaucoup de questions.
Ça fait plusieurs questions, en fait.
D'abord, je pense que le témoignage que les Gabonais ont tenu à apporter lors des obsèques du président Bongo, je crois que les images ont suffisamment été fortes pour attester du lien particulier que le président entretenait avec son peuple. Je dois quand même faire remarquer qu'il est extrêmement rare qu'un chef d'État, après 40 ans passés au pouvoir, que l'on puisse noter la ferveur avec laquelle le peuple est venu témoigner à cet homme-là, tout l'amour qu'il lui portait. C'est extrêmement rare pour le souligner. Donc, ceci est en partie une réponse à votre question.
Vous pensez que le peuple a envie de continuer avec les bongos, a envie de continuer ?
Non, je pense que la question n'est pas vraiment à ce niveau-là. Ce n'est pas une question de continuer avec les bongos. Le peuple veut continuer avec quelqu'un qui peut apporter quelque chose, qui peut lui garantir un certain nombre de choses. Donc le peuple écoute la personne qui vient lui dire « moi je peux ». C'est d'abord ça qui est le plus.
Il y en a beaucoup qui disent qu'ils peuvent, vu le nombre de candidats.
Bien sûr, mais encore une fois, en la matière, le peuple est souverain.
Mais qu'est-ce que vous pouvez de plus que les autres et que vous n'avez pu faire pendant que vous étiez aux affaires pendant toute cette période ?
Il faut dire que nous avons tous effectivement été associés à la gestion de la chose publique avec le président. Bien. Et je crois que le président a été clair dans son discours du 1er décembre 2007. Après 4 décennies à la tête du pays, le président a eu un fait, donc a prononcé un discours qui était fort, dans lequel il a souligné ce qui avait marché, ce qui n'avait pas marché. Et donc, pour nous, c'était un document important, un témoignage important, et en fait, le président lui-même a déjà ouvert la route, la voie pour nous, à savoir, voilà ce qui a marché, voilà ce que nous avons bien fait, voilà ce que nous n'avons pas pu réussir, et voilà ce que nous avons fait, pas totalement. Bien. En ce qui me concerne, la première chose pour moi, c'est de dire aux Gabonais que je souhaite consolider l'héritage. Et cet héritage commun que le président nous l'a légué, c'est d'abord concertation permanente, consensus, cohésion nationale et cohésion sociale, patriotisme et surtout, l'unité nationale et la paix. Donc ça, c'est déjà une chose très importante.
La paix, c'est la normalité. Qu'est-ce qui fait que la paix, tout d'un coup, soit quelque chose de particulier qui devienne le principal point de programme de la plupart des candidats?
Je suis étonné, cher Alain Foucault, que vous puissiez poser cette question, car vous êtes quand même un fin connaisseur de la chose publique en Afrique. Nous vous écoutons souvent sur les ondes, vous racontez des choses qui sont, ma foi, très intéressantes. Et vous savez que, malheureusement, sur notre continent, la normalité, ce n'est pas la paix.
Ça devrait l'être.
Ça devrait l'être, nous en sommes persuadés, nous sommes d'accord avec vous. Ça l'a été et ça l'est toujours au Gabon, mais ce n'est pas sur le continent. Et les Gabonais ne vivent pas en Europe, les Gabonais ne vivent pas en Asie, ils vivent en Afrique. ils savent ce qui se passe. Nous-mêmes avons vu les conséquences de ce qui peut se passer dans un pays lorsqu'il n'est pas en paix. Le nombre de réfugiés que nous avons reçus atteste suffisamment du fait que nous sachons ce que représente ce bien précieux qu'est la paix. Donc voilà pourquoi, pour les Gabonais, après avoir pendant 40 ans goûté à un bien que d'autres recherchent, pour eux, le premier message envoyé aux dirigeants gabonais, c'est de dire, bon, celui qui nous a apporté, maintenu cette paix est parti, mais vous, dirigeants gabonais, ne faites pas
vous
n'importe quoi.
Vous sentez celui qui peut conserver cette paix, celui qui peut consolider cette paix-là, aujourd'hui?
Je pense effectivement avoir beaucoup plus d'atouts pour cela.
Comment
d'autant
ça
plus que d'autant plus que ces 10 dernières années, dans mes fonctions de ministre de la Défense, j'ai quand même été... J'étais étroitement associé à la politique qui consistait quand même à maintenir la sécurité dans notre pays. Et donc, je pense avoir quand même beaucoup plus d'atouts. En plus, ceci m'a donné, comme ministre de la Défense, la possibilité de pouvoir me déplacer énormément dans le pays, voir, visiter un petit peu les Gabonais, voir...
Les autres concurrents pourraient dire la même chose. Il y en a qui ont été premiers ministres, par exemple, et d'autres qui ont été à vos côtés pendant une bonne période.
Je pense qu'il faut aussi voir la chose sous différents angles. Il y a d'abord le fait qu'effectivement, moi j'étais associé à notre politique donc de défense nationale, de sécurité. Et puis aussi, je crois qu'on a reconnu quand même des qualités de rassemblement qui peuvent être les miennes. Donc à partir de ce moment-là, je pense que ceci a pu jouer.
Bien, nous allons prendre un autre journaliste qui cette fois-ci est au Tchad, N'Djamena au Tchad que vous connaissez bien. Alors, c'est Ahmad Makaïla. Bonjour Ahmad.
Bonjour Alain, bonjour Monsieur Bongo. Première question. Alors, par rapport à la course à la candidature au sein du Parti démocratique gabonais et tout ce qui se dit, tout ce qui se noue, ne pensez-vous pas que le parti vit en réalité le début de sa fin? C'est tout de même une ambiance inhabituelle, non, au sein du parti créé par votre descenteur.
La fin du PDG, le début de la fin?
La fin du PDG, c'est une question qui maintenant nous fait un peu sourire, nous PDGistes. Ce qu'on a tellement prophétisé, la fin du PDG, ça a été le cas au moment du passage du monopartisme au multipartisme, et ça a été assez revenu souvent, on prophétise la fin du PDG. Je peux vous dire que le congrès que nous avons tenu hier, le congrès extraordinaire, je crois qu'a été une bonne réponse à tous nos détracteurs, à tous ceux qui ne nous veulent pas du bien et à tous ceux qui étaient dans le doute. Le PDG est sorti de ce congrès extraordinaire encore plus fort.
Mais ça n'a pas empêché qu'il y ait d'autres qui présentent des candidatures indépendantes alors qu'ils étaient membres du PDG.
Le fait de la présence, la présentation de plusieurs candidats pour vous est un signe de faiblesse dans un parti.
Peut-être de division.
C'est plutôt un signe de vitalité au niveau donc du discours, du débat. Je crois qu'au contraire, c'est très enrichissant. Je pense que tous les observateurs auraient été encore beaucoup plus critiques vis-à-vis du PDG s'il n'y avait eu qu'un seul candidat. Je crois que vous êtes d'accord avec moi.
Je n'ai pas de point de vue à donner sur la question. Ahmad Makaïla, vous aviez une autre question?
Deuxième question. Je ne vais pas faire le relais de Radio Trottoir, mais il s'est dit, il se murmure à Libreville et ailleurs de rumeurs sur votre nationalité, sur vos origines. Est-ce un handicap ou craignez-vous un spectre à l'ivoirienne?
C'est une question à laquelle vous avez déjà apporté des réponses, peut-être ici au Gabon, mais la rumeur continue de courir. Seriez-vous bien frais, comme on dit?
J'ai déjà répondu là-dessus en disant que je crois que ceux qui affirment ça sont de très mauvais connaisseurs de l'histoire. Parce que la guerre du Biafra, elle commence, je crois, dans les années 66-67. Moi, je suis né en 59. Bon, donc, et à le moment où je suis né, mon père a 24 ans, il est dans l'armée française. Qu'est-ce qu'il aurait fait au Biafra à cette époque-là?
Mais d'où vient la rumeur, d'après vous? Il y a bien quelque chose qui a dû déclencher cette rumeur-là.
Ah, tout simplement qu'à l'époque de la guerre du Biafra, un certain nombre d'enfants du Biafra sont venus ici au Gabon, réfugiés, puis certains sont restés, d'autres sont partis. Donc,
mais pourquoi ça tombe sur vous aussi? Comment expliquer que ce soit à vous?
Mais allez le demander à ceux qui font courir ce genre de rumeurs, parce que la chose est très simple. J'affirme quelque chose, je suis en mesure de le prouver. Je ne suis pas en mesure de le prouver, je me tais. Et j'ai déjà dit, en répondant à cette question, que l'injure ne m'était pas faite à moi, elle est faite à mes parents. Bon, je crois quand même que les mêmes gens qui ont fait confiance à Omar Bongo pendant 40 ans pensent qu'Omar Bongo allait leur mentir sur un sujet comme celui-là. Quand même, c'est ridicule.
Surtout que votre mère est connue ici.
Mais non seulement ma mère est connue, mon père est connu, et puis je crois que je suis un des rares Gabonais qui ait grandi devant les yeux de toute la nation. Donc c'est quand même là aussi, je crois que c'est frappé d'amnésie que de prétendre que l'on ne m'a jamais vu grandir ici, dans ce pays, avec toutes les personnalités qui m'ont vu grandir, que j'ai côtoyé. Il est vraiment...
Mais la curiosité, c'est que c'est ces personnalités-là qui font courir la rumeur.
Non, ce n'est pas vraiment ces personnalités-là. Ça vient de certaines personnalités, certains milieux. Bon, je crois qu'ils préféraient, bon, qu'on comprend que certains voudraient être à ma place. Bon, je suis désolé, moi je veux pas être à la leur. Mais encore une fois, je sais qui
bien,
je suis.
On va quitter N'Djamena cette fois-ci pour nous rendre du côté de Bamako, au Mali, où nous attend Salif Sanogo. Bonjour Salif.
Oui Alain, bonjour. Bonjour monsieur le ministre. Ma première question, j'aimerais demander au ministre Ali Bongo si quelque part le décès de la première dame, madame Edith Bongo, n'a pas joué un peu sur l'état de santé de votre papa, parce qu'on a senti qu'il était vraiment très très affecté, et pratiquement un peu plus de 3 mois seulement après, lui aussi est parti. Est-ce que quelque part ce décès de la première dame vraiment n'a-t-il pas joué réellement sur l'état de santé du papa?
Bien, nous pouvons dire que cela quand même certainement eu sa part. Déjà, il faut savoir que la première dame, pendant un certain nombre d'années, a souffert. Et que toutes ces années-là, le président a été à ses côtés. Et donc ça a été surtout 3 ans d'incessant va-et-vient de la part du chef de l'État, pas toujours dans les meilleures conditions pour être le plus possible auprès de sa femme, tout en ne délaissant pas ses fonctions de chef d'État. Donc ça a duré pendant 3 ans, comme cela. Et les 6 derniers mois ont été extrêmement difficiles, d'autant plus qu'à ce moment-là, l'environnement était particulier, puisque nous subissions attaques, injures de la part d'une certaine presse, et ceci n'a pas rendu les choses beaucoup plus faciles. Donc je pourrais dire que n'importe qui, déjà en très bonne santé, aurait été très éprouvé par tout ce que le président a dû endurer. Alors si vous ajoutez à cela la maladie, vous comprenez que ça a certainement dû jouer, d'autant plus que après le décès de la première dame, le président a été assez dépressif.
Quand vous dites une certaine presse, vous voulez dire que la presse est en partie responsable de la disparition de votre père? C'est pas un peu dur?
Non, je n'irai pas jusqu'à dire ça. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que voilà quelqu'un qui était fatigué, qui était souffrant, et qui était au chevet de sa femme qui était en train de mourir, et qu'à ce moment-là, il n'avait pas donc toute la sérénité pour qu'il puisse, un, s'occuper des affaires du pays, deux, soutenir sa femme, puisqu'il était aussi, accaparé, dérangé par un certain nombre de choses qui se disaient et qui demandaient aussi son attention, et que je pense que certains ont profité de cet état de choses pour aller beaucoup plus loin.
A profité de cet état de choses.
Mais vous le savez, monsieur.
Non, je éclairais ma lanterne.
Ceux qui le savent sont reconnaissants.
Bien. Salif Sanogo, une autre question?
Oui, Alain, j'ai une seconde question. Est-ce que quelque part, monsieur Ali Bongo, vous n'avez pas peur que les affaires familiales se retournent un peu contre vous, jouent en votre défaveur, autant pour moi? Parce qu'on sait qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. On a parlé également à des biens mal acquis. Est-ce que quelque part aujourd'hui, en tant qu'héritier du clan Bongo, vous n'avez pas peur que cela puisse être quand même, en tout cas, un désavantage pour vous?
Non, pas du tout. Par rapport à ces affaires-là, nous avons toujours été sereins. Et donc, je ne redoute pas du tout ces problèmes-là. De toute façon, je n'ai rien à rajouter là-dessus. Il faut laisser la justice suivre son cours. Et puis, nous verrons
bien.
Monsieur
le ministre, ça c'est une formule traditionnelle, laisser la justice suivre son cours. Mais vous avez été quelquefois cité dans ces affaires de biens mal acquis à Paris. Vous n'avez pas envie d'en dire davantage? Vous ne possédez pas des choses sur place à Paris qui fait que demain, vous pouvez être mis en cause directement?
Ceux qui ont cité mon nom sont très mal informés.
Vous voulez dire que vous ne possédez rien à Paris, cet appartement ou ces véhicules de luxe dont on parle souvent?
Ne soyez pas ridicule. Je dis encore une fois que ceux qui prétendent connaître un certain nombre de choses pour moi ne savent rien. Et donc, je ne redoute rien et je ne crains rien.
Bien, mais c'est dit. Alors, on va se retourner du côté du Niger où nous attend Mohamed Slimane de Ténéré FM. Bonjour Mohamed.
Bonjour Alain, bonjour à votre invité. Alors moi j'ai une série de deux questions. La première, le jour du décès du président Omar Bongo Ondimba, il y a eu fermeture des frontières et ensuite un déploiement d'auto-mitrailleuses à la déventure de l'UPG, le principal parti de l'opposition. Est-ce que vous n'utilisez pas vos fonctions et vos positions pour maintenir la pression et faire peur à vos adversaires?
Je crois tout simplement que vous avez été très mal informé. Certes, les frontières ont été fermées 24 heures, simple mesure, conservatoire. Il faut savoir qu'à ce moment-là, le chef de l'État venait de décéder, le vice-président de la République était en dehors du territoire, le Premier ministre en dehors du territoire, ainsi que le président de l'Assemblée. Et donc, les frontières n'ont été fermées que 24 heures, attendant le retour du Premier ministre et donc ces personnalités-là, c'est tout. En ce qui concerne le déploiement de chars devant le président de l'UPG, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Nous n'avons jamais déployé de chars autour de sa résidence.
Il l'a affabulé alors?
Ce n'est pas tout à fait exact. Ce qui est clair, c'est qu'un officier général est allé rencontrer le président de l'UPG.
Monsieur Mamboundou?
Oui, en lui disant tout simplement que nous étions prêts à assurer sa sécurité si tel était son désir. Et donc, si cela avait été son désir, immédiatement, la chose aurait été faite. Il ne l'a pas souhaité, bien très bien, voilà. Le général est rentré tout simplement.
Il n'y a pas eu de char garé devant chez lui.
Mais jamais de la vie.
Mohamed Slimane, une seconde question.
Alors, la deuxième question concerne votre religion. Êtes-vous musulman par mimétisme, comme pour faire comme papa, ou par conviction, ou à moins que ça en soit par stratégie?
Je crois que... pour ceux qui me connaissent savent très bien que je suis un homme de conviction. Donc, il n'y a pas de mimétisme, il n'y a pas de stratégie. C'est aussi simple que ça.
Vous êtes pratiquant, vous avez adhéré à cette religion depuis combien de temps déjà?
J'étais assez jeune, c'est depuis 1974.
Ce n'est pas la religion majoritaire ici au Gabon. Il faut dire que ça amène à se poser des questions, puisqu'il doit y avoir maximum 2% de Gabonais qui soient musulmans.
Oui, très bien. Et alors?
Mais qu'est-ce qui vous a converti, justement?
Ah, mais ça, c'est un... Je dirais que quand mon père s'est converti, je me suis posé des questions. Et j'ai voulu savoir. Et donc, j'ai fait mon propre cheminement.
Est-ce que ça ne vous a pas aidé dans vos rapports avec les pays arabes, les pays du Golfe où vous allez souvent?
Je ne saurais dire. Je pense qu'évidemment, vous êtes toujours plus proche de quelqu'un si vous avez quelque chose en commun avec cette personne. Mais je dirais que ce n'est pas seulement pour cela. Moi, je m'entends aussi bien avec les musulmans que les catholiques ou les protestants. Vous savez, j'ai fréquenté ces milieux-là. Bon, avant ma conversion à l'islam, j'ai d'abord été dans des foyers protestants et puis après, j'étais dans une institution, lorsque je faisais mes études secondaires, dans une institution catholique.
À l'œil.
Donc, je me sens aussi bien à l'aise chez les protestants, chez les catholiques et chez les musulmans.
Vous n'avez finalement pas opté pour une seule religion, vous êtes œcuménique.
Disons que je suis un musulman, pratiquant certes, mais je pense qu'il est bon de pouvoir aussi dialoguer avec les autres. Et aussi, moi je comprends un protestant, je comprends un catholique, pour avoir vécu dans des foyers protestants et des foyers catholiques. Donc ce ne sont pas des personnes, des religions qui me sont étrangères.
Alors je saute un peu du coq à l'âne, puisque nous arrivons quasiment à la fin de la première partie de ce magazine, pour vous poser la question de savoir, parce qu'on vous a vu à la télévision lors des obsèques de votre père, comment avez-vous réagi aux sifflets qui ont été faits au président Nicolas Sarkozy? Et comment l'expliquez-vous? Comment les expliquez-vous, ces sifflets-là?
Bien, je pense que... Si vous êtes gabonais, Et si vous avez séjourné au Gabon au cours de ces 6 derniers mois, vous pouvez comprendre, peut-être pas accepter, mais vous pouvez comprendre la réaction de certains qui ont donc très mal pris les agressions quotidiennes de certains médias. Je dis bien quotidiennes. Et que les Gabonais ont jugé déplacées. Et donc c'était une simple réaction par rapport à des personnes qui, pendant des mois et des mois, ont porté un jugement particulier sur le président de la République gabonaise. Et le moment où il meurt, bon, il se précipite, il vient. Donc c'était pas... En fait, les sifflets n'étaient pas dirigés contre le président Sarkozy. Simplement étaient dirigés contre certains médias français.
Nous arrivons malheureusement au terme de la première partie de ce magazine. Le temps passe finalement très vite. Mais rendez-vous dans une dizaine de minutes pour la suite de cet échange. Juste après le journal, puisque nous avons encore pas mal de confrères en ligne qui ont eux aussi des questions à poser à Ali Bongo, qui aspire par les urnes à récupérer le fauteuil laissé vacant par son père. Dans un instant donc, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Et nous nous retrouvons juste après.